Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute sous un soleil de plomb, au mois d'août 2002, à Cleveland, aux États-Unis. Vous situez, c'est près des Grands Lacs, dans l'Ohio, en haut à droite de la carte. Et laissez-moi vous présenter Michel. Elle a 21 ans, mais on dirait qu'elle en a 15. Petit short en jean, t-shirt blanc, 1m37, vraiment une gamine. Et pourtant, elle a un enfant, Joey. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là, sur Lawrence Street. Elle a rendez-vous avec son fils qui a été placé dans un foyer. Oui, elle est un peu dans la galère, Michel. On lui a retiré la garde de son fils Joey parce que son grand-père ivre-mort lui a cassé la jambe. Ça fait des mois qu'elle ne l'a pas vu, et là, elle est stressée, elle ne trouve pas le foyer. Elle a l'adresse sur un papier, elle demande à des gens, personne ne sait où c'est. Alors elle entre dans un supermarché, et elle demande à une caissière.
Je crois que c'est la première à gauche, en remontant la rue, mais je suis pas certaine, hein.
Ouf, enfin quelqu'un qui peut l'aider. Michel va pour sortir du magasin, et derrière elle, elle entend un homme.
Je sais où c'est, moi, ton adresse.
Elle se retourne. Ah, c'est Ariel Castro, elle le connaît. C'est le père de son amie Émilie. Chauffeur de bus, sympathique, un peu cradingue, avec sa chemise à carreaux pleine de taches, mais une bonne tête.
Si tu veux, je t'y emmène. Ça te va?
Si ça lui va. Il tombe à pic, celui-là. Elle est déjà en retard. Elle va limiter la casse. Et Michel monte dans le pick-up orange du bonhomme. Ah, c'est pas le carrosse de Cendrillon, hein. On est plus proche de la poubelle avec des roues et un moteur. Il y a à boire, à manger sur le tapis de sol, c'est une vraie porcherie. Est-ce que c'est d'avoir une fille à bord? Ariel se met à faire le kéké. Il accélère, il freine, il fait crisser les pneus.
Ça t'embête?
Si on passe vite fait chez moi, j'ai un truc à prendre. Ben, si c'est rapide, alors je suis désolé, hein. C'est parce que j'ai un rendez-vous important et je suis déjà en retard. Vous comprenez? Ariel promet qu'il y en a pour une minute. Et il se gare au 2207 Seymour Avenue, en face d'une maison en bois, toute blanche, avec un drapeau américain planté au niveau du perron. Et c'est là qu'il lui dit...
T'aimes les chiots?
Ben oui, pourquoi?
Ma chienne vient d'avoir une portée. Tu veux voir les chiots? Et si tu veux, je peux t'en donner un.
Michel... Pense à jouer, son fils. Il va bientôt revenir à la maison, elle en est sûre. Il sera content d'avoir un petit chiot.
Viens, suis-moi. Les chiots sont à l'étage, ils sont en train de dormir.
Pourquoi voulez-vous qu'elle se méfie? C'est le père de sa copine Émilie. Alors ils montent l'escalier et ils arrivent dans une chambre. Crasseuse, bordélique.
Regarde sous la commode, tu vas trouver les chiots.
Elle se penche et d'un seul coup, Ariel Castro claque la porte et elle comprend tout de suite et elle se met à hurler.
Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir!
Castro lui plaque sa grosse main calleuse sur le visage. Il pue la bière, la sueur et même un peu l'urine. Et il lui coince la main dans le dos et il la ligote avec du câble électrique. Plus tard, Michel écrira... Mon cœur battait la chamade. J'avais les mains et les pieds engourdis, le visage trempé de larmes et le nez qui coulait. J'avais connu de nombreuses frayeurs au cours de mon existence, mais aucune ne rivalisait avec celle que j'éprouvais en cet instant. J'allais mourir, j'en étais certaine. Pour l'instant, il n'est pas question de mourir. Castro s'assoit en face d'elle, sur un tabouret. Il baisse son pantalon et il se donne du plaisir. Tout seul. Et quand il a fini, il dit
« Dis, je veux juste qu'on soit amis. Ma femme et mes gosses sont partis. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. »
Et après, il attache Michel à un poteau, il la baillonne et il met le son de la radio à fond. Et il s'en va. Et il ne revient que deux jours plus tard. Elle est affamée, assoiffée, épuisée, le cerveau matraqué par le son de la radio. Pauvre Michel.
Comme dit Cecilia, my English is not very good looking.
Que
Castro la prend sur son épaule comme un sac à patates, il la porte jusqu'à la chambre d'à côté, il la balance sur un matelas miteux, et je vous dispense de la suite. Il l'a violée. Il l'a violée, et à la fin, il lui balance une poignée de dollars à la figure. « Tiens, prends ça. Tout travail mérite salaire, hein ?» Et il lui demande « T'as quel âge, au fait ?»«
21 ans. »«
Eh ben ça alors ? Je te croyais plus jeune. Je pensais que t'avais 15 ans à tout casser. Je croyais que tu tapinais. »
Michel se dit que puisqu'elle n'a pas 15 ans, il va peut-être la laisser partir.
« Ah, t'inquiète pas, va. Je te garde sous le coude jusqu'à Noël. Après, tu seras libre. »
« Jusqu'à Noël ? Tu parles ? Si elle savait, le temps qu'elle va passer dans cette maison prisonnière de ce psychopathe. » Ensuite, il la colle dans un sous-sol. À côté, là-haut, c'était une suite royale. Et il l'enchaîne à un poteau et il lui met un casque de moto sur la tête. C'est pour étouffer les cris. Et puis, la routine s'installe. Tous les matins, elle entend son pas lourd qui descend jusqu'à sa geôle. Il lui offre un sandwich, et puis il la viole, et il part travailler. Le soir, il rentre, il regarde des pornos, il écoute de la salsa, il boit de la bière, du rhum, il fume des pétards, et quand il est bien défoncé, il redescend la voir. Et c'est comme ça, tous les jours. Tous les jours. Et puis à un moment, il la remonte à l'étage. Et là, il se met à faire le gentil. Il lui enlève son casque de moto, il lui retire son baillon et il lui donne un poste de radio.
« Tiens, tu pourras écouter de la musique avec ça. Mais pas trop fort, hein, et pas de musique de nègre, tu entends ?»
Encore un peu plus tard, il lui ramène un chiot pour lui tenir compagnie. Il continue de la violer, rassurez-vous, matin et soir. Et un jour, il fracasse le chien d'une main devant elle. Et le temps passe et arrive Noël. Il avait dit « Je te garde jusqu'à Noël et après tu seras libre ». Mais est-ce qu'elle y croit elle-même ? L'année 2003 commence dans un froid glacial. Dans la chambre de Michel, maintenant il y a la télé, mais il n'y a pas de chauffage. Michel passe des heures devant la télé à regarder la vie normale. Parfois, quand il me faisait des choses, il m'arrivait de tourner la tête sur le côté pour suivre une émission à la télé. J'entendais le public éclater de rire, il s'amusait pendant que ce type était sur moi. Ah, j'ai négligé un détail. Pendant des mois, il ne l'a pas laissé se laver. Des mois, vous entendez ? Elle était dans un état de saleté inimaginable, les cheveux durs comme du bois. Et puis un jour, il lui a dit
« Va prendre une douche !»
Et après, il l'a violée et il ajoute
« T'inquiète, va, je vais te laisser partir. Mais avant, faut que je trouve deux autres filles. »
C'est en regardant la télé, le 21 avril 2003, que Michel apprend la disparition d'Amanda Berry, 16 ans. Elle était serveuse dans un fast-food, des gens l'ont vu faire du stop et depuis, aucune nouvelle. Et à la télé, on montre des images du fast-food et Michel reconnaît l'endroit. C'est à quelques rues de l'endroit où elle est séquestrée. Et d'ailleurs, Amanda aussi, elle la connaît. Elle était dans son lycée. Et tout de suite, elle se dit, il l'a enlevée. Il l'a enlevée et il va l'amener ici. Alors elle tend l'oreille, du matin au soir. Elle guette tous les bruits de la maison. Mais non, elle n'entend rien d'inhabituel. Mais un mois plus tard, Castro surgit dans sa chambre. Il tient une adolescente par le bras et il lui dit,
tiens, je te présente Amanda. C'est une copine de mon frère.
Et il l'enferme dans la chambre d'à côté. Elles sont à quelques mètres l'une de l'autre. Elles ne se croiseront quasiment jamais. En tout cas, les premières années. Et la vie continue. Viol, télé, ennui, viol. Et à ce rythme, un matin, Michel a des pertes de lait. Du lait qui lui coule des seins. Elle est enceinte. Quand Castro s'en aperçoit, il est fou de rage. Alors dans l'espoir qu'elle fera une fausse couche, il décide de l'affamer. Mais le bébé s'accroche et un jour, il entre dans sa chambre. Il a une barre d'haltère à la main et il se met à lui frapper le ventre.
« Tiens, ça t'apprendra à tomber enceinte !»
Et là, évidemment, elle fait une fausse couche. Le 2 avril 2004, un an après l'arrivée d'un mandat, toujours à la télévision, Michel apprend la disparition de Gina de Jesus, 14 ans. Et c'est là aussi elle la connaît, c'est la petite sœur d'une de ses copines. Le soir même, elle entend hurler au sous-sol, des hurlements de quelqu'un qu'on torture. Elles sont trois, maintenant, dans la maison. Et un jour, il entre dans la chambre de Michel avec Gina. Il les enchaîne l'une à l'autre par les chevilles et il attache la chaîne au mur. Maintenant, vous serez dans la même chambre. Et tenez-vous à carreau, hein, si vous tenez à vos vies. L'air de rien, c'est un changement capital. Michel a quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui lui demande. Dis, tu penses qu'on va s'en tirer? Mais oui, t'inquiète pas, bientôt on sera dehors et on va trouver un moyen de sortir de là. Un soir, il est avec Michel dans sa chambre, il vient de la violer, il est bourré comme un coin et il se met à rire, d'un rire diabolique. Tu sais, c'est pas Gina que je voulais au début. C'était une autre, je me suis trompé. Enfin, je perds pas au change, hein. Elle est pas mal non plus, la petite. J'ai aidé les parents à la chercher, figure-toi. T'aurais vu leur tronche, ça faisait de la peine. Ils ne la trouveront jamais. Toi non plus, d'ailleurs, personne te trouvera. Jamais. Mais toi, c'est que personne te cherche. Tout le monde se fout de savoir ce que tu deviens. Au début, il les violait séparément, chacune à leur tour. Mais maintenant, il les viole enchaînées l'une à l'autre. Michel écrira. Il est difficile de supporter que quelqu'un vous brise le cœur. Mais il est encore plus douloureux de voir cette personne s'en prendre à quelqu'un d'autre. Pendant tout le temps où j'ai partagé ma chambre avec Gina, je me suis senti anéanti à de trop nombreuses reprises pour pouvoir en faire le décompte. Je ne crois pas que je pourrais me remettre un jour de ce que nous avons subi, toutes les deux. Quelques mois plus tard, durant l'été 2004, Michel et Gina entendent une voix d'enfant au rez-de-chaussée. Et Castro vient les prévenir. Je vais vous présenter mon fils, les filles. Et cachez vos chaînes, hein. J'ai pas envie qu'ils voient ça. Et souriez, s'il vous plaît. Soyez gentilles. C'est tout ce que je vous demande. Et si l'une de vous se met à gueuler, je la tue. Ok? Et il entre dans la chambre avec un petit garçon de 3-4 ans qui comprend tout de suite qu'il y a un truc malsain et qui dévale les escaliers en trombe en disant « Maman! Maman! Maman !» Pourvu que le gamin raconte tout à sa mère. Pourvu qu'il le raconte. Mais les jours passent et rien. 2 semaines plus tard, Ariel Castro annonce « J'ai de la famille qui va passer quelques jours. Alors vous irez dans ma fourgonnette en attendant. » Et elles se retrouvent toutes les trois, Amanda, Michel et Gina, enchaînées dans la fourgonnette, garées en plein soleil, fenêtres fermées, avec un seau pour leurs besoins. Et ça dure 5 jours. Et ils les ramènent dans leur chambre. Depuis le début de leur captivité, elles ont toutes les trois perdu beaucoup de poids. Elles sont très faibles et elles n'ont plus la force de tenter quoi que ce soit, genre une évasion. Alors ils leur laissent un peu plus d'autonomie dans la maison. Mais il perd pas le nord, hein. De temps en temps, il sort en oubliant de fermer une porte, elle passe une tête pour voir si la voie est libre, et il est tapi dans un coin, à les épier. Maintenant, Ariel Castro dit qu'Amanda, bah c'est sa femme. Il le claironne toute la journée, c'est sa femme, c'est sa nouvelle idée fixe. Et quand elle tombe enceinte, au début 2006, il est ravi. Et le matin de Noël 2006, naît une petite fille qu'il baptise Jocelyne. Son arrivée va bouleverser la vie dans la maison. Depuis la naissance de Jocelyne, Castro s'est un peu détendu. Amanda est toujours enfermée dans sa chambre, mais il lui a enlevé les chaînes pour qu'elle puisse s'occuper de sa fille. Et le sort de Gina et de Michel s'est amélioré lui aussi, enfin, un peu. Elle se douche plus souvent, elle mange 2 fois par jour, mais il continue de les violer et de les humilier, surtout Michel. Il lui répète tout le temps que personne ne la cherche, que c'est une moins que rien. Le soir maintenant, ils mangent tous ensemble, en bas, dans la cuisine. Et il leur dit « Vous êtes ma nouvelle famille !» Et le plus dingue, c'est que maintenant que Jocelyne marche, Castro l'emmène à la messe tous les dimanches. Car il est croyant, figurez-vous, et pratiquant. Il dit aux gens de la paroisse, « Regardez ma fille, c'est pas la plus belle ?» Et ça n'intrigue personne. Ils n'ont jamais vu la mère, mais ça leur va. Il y a quand même quelque chose qui l'inquiète, Castro. Bientôt, Jocelyne saura parler. Et qu'est-ce qu'elle va raconter à l'extérieur? Alors il décide que désormais, Michel s'appellera Tata Ju et Gina Tata Chelsea. Et le temps passe et maintenant, de temps en temps, il les laisse prendre l'air dans le jardin, avec une perruque pour ne pas qu'on les reconnaisse. Et elle n'essaie pas de s'évader. Plus tard, Michel écrira « Au bout de plusieurs années de séquestration, se produit un phénomène étrange. Ce ne sont plus nos chevilles ou nos poignets qui sont enchaînés, c'est notre esprit. Notre esprit commence à se désagréger. On n'est plus capable d'imaginer que la situation puisse être différente. On a l'impression que son ravisseur voit tout, qu'il sait tout. » En septembre 2012, ça fait 10 ans que Michel est prisonnière. Et elle tombe de nouveau enceinte. Et pour la faire avorter, il l'affame à nouveau. Mais 3 mois plus tard, elle est maigre comme un clou, mais le bébé est toujours là. Le jour de Noël 2012, Jocelyne a 6 ans, il fait une petite fête pour sa famille. Et il filme la soirée avec son caméscope. Et sur les images qu'on a retrouvées plus tard, on voit la petite tout sourire qui souffle ses bougies au milieu des confettis et des ballons gonflables multicolores. Franchement, mais les images d'une famille parfaite. Quand cette mascarade est terminée, les filles retournent dans leur geôle. Sauf Michel, qui en est à son 3e mois de grossesse. Toi, tu restes avec moi, j'ai à te parler. Et il la pousse dans l'escalier qui mène au sous-sol. Et elle dévale les marches comme un pantin désarticulé. Et arrivé en bas, il lui tapote son ventre rond et il lui dit « Hé, il est temps de s'occuper de ça, non? Tu vas voir, avec ce que je vais te faire, ça m'étonnerait que tu retombes enceinte un jour. » Et il la frappe au ventre avec ses grosses rangers. Et il la frappe encore comme s'il tirait sur un ballon de foot. Et le sang coule entre ses jambes. Le bébé est mort. Michel est devenu sa tête de turc, parce qu'elle est trop vieille, bien sûr. Elle a 30 ans, vous pensez? Un matin, il l'emmène dans le jardin et il lui tend une pelle et il lui dit « Allez, tiens, creuse! T'arrêteras quand je te le dirai !» Alors elle creuse. Elle creuse sa tombe. Elle écrira plus tard « Chaque fois que je soulevais une pelletée de terre, mon cœur se mettait à battre de plus en plus vite. Je me disais que cette fois, c'était vraiment la fin. Ce cinglé avait tué mes enfants, et voilà que mon tour était venu. » Au bout de 3 heures, il lui dit « C'est bon pour aujourd'hui, on reprendra demain. » Mais le lendemain, il a dû changer d'avis. Elle n'entend plus jamais parler de ce trou. Michel est prisonnière depuis 11 ans, Amanda depuis 10 ans, et Gina depuis 9 ans. Et Ariel Castro semble avoir pris conscience que ça ne va pas durer une éternité.
Tout ce que j'ai fait, ça va me retomber dessus forcément. Hein. Les flics vont finir par me mettre la main dessus.
Pourvu qu'il ait raison. Le matin du 6 mai 2013, la petite Jocelyne voit son père partir et elle remarque qu'il n'a pas fermé la porte.
« Maman, maman, papa il est parti, il a laissé la porte ouverte !»
Amanda sort de sa chambre, hésitante.
« T'es sûre? Tu l'as vu partir, ma puce ?»«
Oui maman, c'est sûr. »
Alors Amanda se précipite jusqu'à la porte d'entrée, elle est ouverte en effet. Et elle voit le voisin d'en face qui déjeune sur son perron.
« Au secours! Au secours! Aidez-moi! Je suis Amanda Berry! Je suis retenue prisonnière !»
Le voisin traverse la rue, il la fait venir chez lui et elle appelle la police.
« Je suis Amanda Berry. J'ai été enlevée il y a 10 ans. Je viens de m'enfuir. »
Cet appel a été enregistré.
Écoutez, cet appel, il est bouleversant. Pour la première fois depuis 10 ans, elle sait qu'on l'entend. « Je suis Amanda Berry, j'ai été kidnappée, mais je suis libre maintenant. »
Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, ambulance.
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm fine now.
L'officier au bout de la ligne est abasourdi. Amanda a disparu à seulement quelques rues en avril 2003, à la veille de ses 17 ans. Tout le monde la croyait morte.
Michel et Gina, depuis leur chambre, ont entendu du vacarme au rez-de-chaussée. Elles sont terrorisées. Elles coupent le son de la radio, elles éteignent la lumière et elles se cachent dans un coin. Et elles entendent des bruits de pas qui montent de l'escalier. On s'approche de leur chambre.
Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est la police !
Elles n'y croient pas. Elles pensent que c'est un piège. La porte de la chambre s'ouvre et apparaît une policière. Michel se jette à son cou. Dans son livre, elle écrira « À chacun de mes pas, je pensais à toutes ces années qui s'étaient écoulées depuis que ce type m'avait fait gravir ses marches, en me promettant un chiot. Je songeais à ces centaines de jours durant lesquels j'avais entendu ses pas dans l'escalier avant qu'il vienne me violer. Et voilà qu'à 32 ans, je les descendais pour la dernière fois. » elles sont libres, et la nouvelle fait le tour de la planète.
La surprise était telle hier soir qu'on a vu des scènes de liesse dans les rues de Cleveland. Les gens ont applaudi la police et ce voisin, celui qui a libéré les jeunes femmes en défonçant la porte de la maison, est déjà un héros. Écoutez son témoignage, il sortait d'un fast-food quand il a entendu des cris.
J'ai vu cette femme devenir folle et essayer de sortir de la maison. Je suis allé sous le porche et elle a dit « Aidez-moi à sortir ». On a défoncé le bas de la porte, alors elle est sortie avec une petite fille et elle a dit « Appelez le 911, je suis Amanda Berry. »
Amanda Berry, disparue en 2003, à quelques rues seulement, et dont la police avait vainement cherché le corps. Elle vivait là, ligotée dans cette maison, avec deux autres femmes disparues en 2002 et en 2004, alors qu'elles avaient 20 et 14 ans. Les voisins sont sous le choc, ils n'ont jamais rien soupçonné. Le suspect semblait être un paisible chauffeur de bus qui jouait avec ses chiens dans la cour, venait au barbecue des voisins, écrivait même parfois dans le journal local. C'est lui qui avait signé l'article sur la disparition d'une victime en 2004.
Dehors, les ambulances arrivent, les filles sont très affaiblies. Michel pèse 30 kilos toute mouillée et à l'hôpital, on lui diagnostique une infection à l'estomac. Elle souffre aussi de troubles de la vision et elle est presque sourde d'une oreille à cause des coups. Sa mâchoire est déformée, elle va devoir subir plusieurs opérations au visage. Et celles qu'on appelle désormais les séquestrées de Cleveland retrouvent enfin leur famille qui les pensait mortes.
48 heures après la libération des trois séquestrés de Cleveland, l'une des victimes, Amanda Berry, a pu rentrer chez elle dans la maison de sa famille. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Géraldine Vosner, a assisté à ce moment d'émotion.
Sous le porche, des peluches, des ballons par brassée et une immense pancarte « Welcome home, bienvenue à la maison, Amanda ». La jeune femme est rentrée chez elle en fin de matinée, sa petite fille Jocelyne dans les bras d'un agent, une enfant née en captivité qui va découvrir pour la première fois ce qu'est un foyer. Amanda avait prévu de dire quelques mots, de remercier ceux qui l'ont cherchée pendant plus de 10 ans. Finalement, elle y a renoncé en voyant l'énorme foule de voisins et de journalistes surtout massés devant la maison. C'est sa sœur Beth qui a pris la parole, la gorge nouée d'émotions. Merci, a-t-elle dit, pour votre soutien, votre présence, avant de demander que soit respectée maintenant leur vie privée.
Ariel Castro, bien sûr, est arrêté dans la foulée sur le parking d'un fast-food. Son frère O'Neill, qui est à ses côtés à ce moment-là, est aussi embarqué, de même que son deuxième frangin, Pedro. La police a beaucoup de mal à croire que Castro ait pu agir seul, sans aucune complicité. Dans la foulée, Ariel Castro est interrogé par le FBI.
Je les ai enlevés parce que je les trouvais mignonnettes. Je les avais repérées dans l'école de mes gamines. En fait, elles connaissaient mes filles.
Continuez.
C'est à cause des films porno que je regardais. Je voulais faire comme dans les films. C'est pour ça que je les ai embarquées avec moi. Mais vous savez, on était heureux ensemble, hein. On formait une belle famille.
Les deux frères d'Ariel Castro sont finalement mis hors de cause. Ils n'étaient au courant de rien. Quant à lui, soyons clairs, il risque la peine de mort et l'Ohio est un état où la peine capitale est encore pratiquée. Alors Ariel Castro décide de plaider coupable. Et en contrepartie, il n'y a pas de procès et il est condamné à la prison à vie, sans remise de peine possible. La sentence est prononcée le 1er août 2013 par le tribunal de l'Ohio et Michelle est la seule des trois victimes à être présente. Elle s'adresse à son bourreau.
Vous m'avez privé de 11 ans de ma vie. Mais je suis encore là. J'ai passé 11 ans en enfer, mais le vôtre ne fait que commencer. La peine de mort serait une peine trop légère pour vous. Vous ne la méritez pas. Vous ne méritez pas celle restant de vos jours en prison. Je pourrais peut-être un jour vous pardonner, mais je n'oublierai jamais.
Castro, dans sa combinaison orange de détenu, se retourne alors tête baissée et lui demande « Pardon ». Mais juste après, il dit
« Tous les rapports sexuels que nous avons eus étaient consentis. Nous vivions en harmonie. Je pense que nous avons été heureux pendant cette période. Vous me jugez comme un monstre, mais j'en suis pas un. Je suis malade. Mon addiction au sexe fait de moi quelqu'un de mauvais. »
Et comme pour exorciser le drame, sa maison, la maison de l'horreur, est détruite à coups de bulldozer. Un mois plus tard, le 3 septembre 2013, Ariel Castro se pend dans sa cellule. Michel a écrit un livre dont je me suis beaucoup inspiré pour vous raconter cette histoire. « Traverser l'enfer et croire encore au paradis » aux éditions Michel Lafon. Et elle écrit « J'apprends un peu à me débarrasser de ma haine. Je ne dis pas qu'il mérite qu'on oublie tout ce qu'il a fait, mais que je mérite moi d'être libre. Je ne serai jamais libre si je continue à éprouver chaque jour du ressentiment et de l'amertume envers lui. Ce n'est que par le pardon que je pourrai recouvrer mon existence. »
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.